l'humanité fait de moins en moins de bébés, c'est un fait. Même si la population globale continue à grimper, les pays développés ont quelques soucis à se faire dans les décennies à venir. La natalité recule dans la moitié des pays. Le monde a maintenant plus de grands-parents que de petits-enfants. En 1950, les femmes avaient en moyenne 4,7 enfants. Ce chiffre a été divisé par 2 en 70 ans, soit désormais 2,4 enfants par femme. Sachant qu'il faut un taux de 2,1 pour assurer un renouvellement de la population, on peut estimer que la planète verra son nombre d'habitants diminuer d'ici une ou deux décennies. Seule l'Afrique continue à être championne de la fécondité, même l'Inde à 2,24 commence à s'approcher du seuil fatidique. Cela induira des conséquences économiques et sociales profondes, à commencer par un vieillissement de la population. Il se pourrait que cette baisse soit due à une faillite du capitalisme débridé avec ses inégalités croissantes, l'individualisme qui en découle et l'incapacité des politiques à prendre des mesures pour réguler la crise climatique. Les moyens mis en œuvre par les pays afin d'enrayer cette baisse de la fécondité sont souvent en vain. Si on leur pose la question, hommes et femmes veulent bien en moyenne plus de 2 enfants par couple, ce qui garantirait un renouvellement de la population, mais on est loin du compte. Qu'est-ce qui empêche de fonder une famille selon les vœux de chacun? Les réponses sont variées. L'éducation, le meilleur accès au monde du travail pour les femmes, la hausse du niveau de vie alliée à une plus grande liberté de choix en matière de procréation provoquerait une incapacité de rendre compatible travail et vie de famille. Les produits toxiques et polluants, en constante augmentation, s'insinuent dans les organismes et favorisent les troubles endocriniens. De manière générale, les conditions économiques, sociales et écologiques agissent tel un contraceptif insidieux, pour reprendre une expression d'une journaliste du Wall Street Journal. Nous sommes formés à penser que le plus important et le plus gratifiant est d'apprendre, travailler, créer et voyager, continue-t-elle. Lehman Stone, un économiste, y voit la montée du culte du travail et le déclin du religieux. L'individu rechercherait une validation extérieure dans le travail, une valeur culturelle dominante qui induirait automatiquement une baisse de la natalité. La Corée du Sud et le Japon, où le taux de fécondité est des plus faibles, en sont de parfaits exemples. Le premier enregistre le plus faible taux, soit 0,98 enfants par femme en 2018, le second est à 1,24. Cette baisse de natalité est néanmoins difficile à cerner tant les causes peuvent être différentes. Par exemple, aux États-Unis, où les inégalités sont flagrantes, elle peut se comprendre. Le coût pour mettre au monde un bébé a été évalué à 4 500 $, chiffre qui a doublé en une douzaine d'années. Mais le Danemark, un des pays les plus égalitaires, qui assure à ses habitants les besoins essentiels, qui n'est pas spécifiquement visé par ce culte du travail, connaît lui aussi un effondrement de sa natalité. La Chine, qui a abandonné le principe de l'enfant unique depuis 5 ans, ne voit pas d'augmentation significative du nombre d'enfants par femme. Pourtant, plus que tout, c'est le droit à faire naître un enfant dans la dignité qui prime de plus en plus pouvoir l'élever dans un environnement sûr et stable. La crise reproductive devrait bientôt s'imposer comme une urgence presque aussi importante que le changement climatique. Il existe des liens profonds entre procréation et état de la planète. L'une et l'autre devront être sauvées. Cela passera par la renonciation à l'individualisme capitalistique qui nous dévore et ainsi comprendre les interdépendances essentielles à notre survie à long terme, ces relations entre nous et la nature, entre chacun d'entre nous et les autres, et la reproduction est le summum de cette interdépendance.